Bonjour à nos chers auditeurs. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose que je fais assez rarement. On va parler avec quelqu'un qui connaît beaucoup mieux le trading dans les marchés financiers que moi, quoi. Vous savez que ça fait 50 ans que je suis dans la finance, ou 60, je ne sais plus combien, ça n'a aucune importance d'ailleurs, que j'ai survécu, ce qui est déjà un... Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que les marchés financiers, c'est le cœur nucléaire du capitalisme. Donc moi j'ai toute une série de mes copains qui ont été très très bien irradiés et qui s'en sont jamais remis quoi. C'est quand même un endroit où on vit dangereusement. Hein. Le cœur financier du capitalisme, c'est un endroit dangereux.
On s'approche du magma.
On s'approche du magma en fusion, donc il faut faire très attention. Et alors là aujourd'hui on inter... Oui, de l'œil du cyclone. Et c'est pas toujours calme au milieu. De temps en temps c'est calme, mais c'est pas toujours calme au milieu. Et là, on va interroger un trader. Alors là, le trader, c'est encore un animal complètement à part. C'est un gars qui essaye de gagner de l'argent dans un système qui, en somme consolidée, ne gagne pas d'argent. C'est-à-dire que le trading, c'est une activité à somme nulle. Si je ne m'abuse. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise.
Non,
C'est-à-dire que tant que le marché monte, vous pourrez gagner plus, mais en fait, sur le moyen terme, je suis pas certain qu'on gagne de l'argent sur le
Donc
trading.
nous sommes heureux de recevoir Anis Lajnef, parce que tu ne le dis pas quand
Voilà, Anis Lajnef, absolument. Et
C'est
en
un...
plus que lui a été capable de gagner de l'argent dans un métier impossible. Dans un métier impossible. Et qui, ayant gagné de l'argent, a eu apparemment l'intelligence de se dire, c'est quand même pas bien ce que je fais. Et il faudrait peut-être que je réfléchisse à faire quelque chose d'autre, ou de le faire différemment, ou de rendre service aux autres, quoi. Donc, vous êtes parti du métier le plus égoïste, le plus, pour arriver vers quelque chose d'un peu plus large. Enfin, si je ne me trompe.
Ça, en fait, quand on est à l'école, c'est-à-dire que moi j'ai fait la prépa, maths sup, maths spé, école d'ingé, on nous a bourré le crâne et nous dire que les postes les mieux payés et les plus valeureux à l'époque, c'était de rejoindre justement les banques et les salles de marché. Et justement, une banque, une salle de marché qui était en plein boom. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était le passage au numérique. C'est-à-dire qu'on n'était plus à la criée, on n'était plus sur ce qu'on appelle le pit, qui est, ou le floor, ce qui est la salle des marchés. On passait de l'autre côté, chaque banque avait sa propre salle de marché, et chaque banque avait ses ordinateurs. Donc, ils avaient besoin d'ingénieurs, de gens qui sont bons en maths et qui savent aller
Et
vite.
si je
Donc
peux
là, on
vous
est quoi? On
arrêter?
est en 2000?
On est en 98. Moi, je suis arrivé en 2000. Je suis venu juste après, en fait, c'est pour ça.
Et si je peux m'arrêter, si je peux vous arrêter là, c'est là où, dans le fond, les capacités de la calcul de l'informatique ont fait des progrès tels que ça devenait possible de faire des opérations à la milliseconde, en quelque sorte. Ça a commencé, c'était le moment. Parce qu'avant, moi, je me souviens, dans les années, on faisait des calculs avec des logs ou des abacs, et c'était pas terrible, quoi. Donc vous êtes arrivé au moment où vous avez une fusion entre l'informatique et la finance.
Exactement. Entre l'ingénierie aussi, parce que, par exemple, moi, j'ai pas fait LKRUI, mais en général, tous ceux qui faisaient des écoles d'ingénieurs, polytechniques, etc., faisaient en plus, à Jussieu, une petite année supplémentaire pour apprendre tout ce qui est dérivés, produits dérivés, brownien, etc. Et ça, les Français sont les numéros un là-dessus. Et c'est Madame LKRUI à Jussieu. Et donc,
C'est ça, c'était la même professeure qui a formé tous les traders.
ouais. Quasiment.
Qui était une femme d'ailleurs. Ce qui
Qui
est
est
assez.
oui, qui est une femme et qui est la maman de Karim El-Khaoui.
Ah oui, d'accord.
Et donc, elle a formé énormément de traders qui sont très bien exportés à Londres. Et moi, je suis arrivé à Paris, en fait, à la Société Générale. Et donc, oui, c'est la fusion de la finance, des télécoms et de l'ingénierie. Et c'est d'une certaine façon, avec un peu de recul, maintenant c'est facile de le dire aujourd'hui, beaucoup de gâchis. Parce que quand on voit tous ceux qui sont polytechniciens, normaliens, qui rentrent dans Centrale, etc., toutes les grandes écoles, et qui rentrent là-dedans, j'ai l'impression c'est on fait un tour de France dans un vélo d'appartement. C'est-à-dire que on est là, on brasse beaucoup de vent, alors que tous ces gens peuvent servir à l'industrie ou à la recherche, à l'innovation, etc.
Moi, j'avais un de mes amis qui était normalien, maths, et qui avait été travaillé à Londres, là. Et puis son père, qui était venu le voir, l'avait vu dans une salle de trading. Il lui avait dit, mais mon fils, il faut que tu sortes d'ici, c'est abominable. Qu'est-ce que tu es venu foutre ici? Il n'imaginait rien de pire, le pauvre père, qui était fier comme tout d'avoir son fils dans Baliamat, en train de faire du trading avec des calculs de partout. Il se disait, mais c'est l'enfer, cet endroit. Qu'est-ce que tu fais dans cet endroit, quoi? C'était... Et je crois qu'il y avait un certain fond de vérité. Mais là, on arrive on va arriver assez vite au cœur du sujet. Quand vous dites que, dans le fond, tous ces développements mathématiques, informatiques, etc., n'ont pas amené à une amélioration du niveau de vie ou du niveau de compréhension de l'économie, etc. On est arrivé à quelque chose de complètement différent. Et mon grand homme, qui s'appelait Paul Volcker, qui était le gouverneur mythique de la Banque centrale américaine, qui a fait sortir les États-Unis de l'inflation au début des années 80, disait, de toutes ces inventions financières, la seule qui soit utile, vraiment, qui a amené quelque chose à la population, c'est le trou dans le mur. Vous savez, vous mettez votre carte de crédit et vous sortez du cash. Il dit, ça évite de voir son banquier, ça c'est bien quand même. Mais il dit, tous ces autres trucs, ça n'a servi à strictement rien.
Pour la population.
Pour la population, et même, aussi curieux que ça paraisse, pour le déploiement du capital de façon efficace dans un système économique. Ce que je trouve stupéfiant, c'est à quel point, comme vous l'avez déjà dit, on se retrouve dans un monde où le capital est gâché, utilisé à tort et à travers, dans des opérations qui, dans le fond, ne sont pas gagnantes par solde, et où chacun essaye, dans le fond, de gagner de l'argent au détriment de l'autre. Alors que dans un système capitaliste qui fonctionne bien, tout le monde gagne de l'argent en même temps. Ou à la limite, tout le monde en perd en même temps. Mais là, essayer de bâtir un système qui est à yeux à somme nulle, où il y en a qui vont gagner et d'autres qui vont perdre, c'est un système un peu curieux parce qu'on ne voit pas où est la rentabilité globale pour le système. Quoi. C'est ça le.
C'est même un peu plus grave que ça, en fait. Quand on regarde bien au fond des choses, moi, ça ne me dérange pas, même si je suis contre, que tout risque, même qu'il soit spéculatif, rapporte de l'argent.
Bien sûr.
Moi, je suis contre la spéculation. Mais au moins, il faut que le risque soit pris. Mais moi, pourquoi j'ai été un peu dégoûté après 2008, c'est que je m'attendais à ce que vraiment nos salaires, nos bonus, l'activité baisse et qu'on ait à payer de nos erreurs passées, parce que on est quand même un peu. Alors, chacun à son niveau, hein, que ça soit les traders qui sont sur les equities ou ceux qui sont sur les CDS, ceux qui font toute la banque en général.
Un prorata.
On a fait des erreurs tous ensemble. En 2008, on devait payer de nos erreurs et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a eu une assurance gratuite. Tout d'abord, c'est l'État qui a donné cette assurance gratuite et ensuite, c'est les banques centrales. Et donc, ces gens, quand je dis ces gens-là, c'est donc les autorités monétaires et les autorités politiques ont donné une assurance gratuite au marché pour dire, ben, spéculez, quand vous gagnez, c'est pour vous, quand vous perdez, c'est pour nous. C'est-à-dire, quand on dit nous, l'État, donc les contribuables et ceux qui utilisent les services publics et aussi... tout le monde. Pourquoi? Parce que quand la banque centrale crée de l'argent à partir de rien, et cet argent-là est d'intérêt public, quand elle l'injecte dans les marchés financiers, d'une certaine façon, en fait, elle injecte l'argent qui appartient à tout le monde. Parce que cet argent, justement, est d'intérêt public, est un bien public. Et c'est pas de l'argent public, mais d'intérêt public.
C'est ce qu'on appelait autrefois un bien commun.
Oui, c'est un bien commun.
C'est un bien commun. C'est l'argent, dans une nation, l'argent, c'est un bien commun. Ça ne doit être ni privatisé, ni nationalisé. Ça doit rester un bien commun. Et là on n'y est pas arrivé. Et là, il me semble qu'on touche du doigt. Ça va être difficile, cette conversation, parce que vous êtes très calé sur votre domaine, mais il me semble qu'il faut revenir presque au principe d'origine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, pour moi, les taux d'intérêt à zéro, c'est une machine à enrichir les riches et à appauvrir les pauvres. Je m'explique, c'est un peu ce que vous dites vous-même. Enrichir les riches, pourquoi? Parce que quand vous êtes riche, vous avez des actifs. C'est même à ça qu'on sait que vous êtes riche. Vous avez des actifs, de l'immobilier, des actions, des obligations, ce que vous voulez, mais des actifs. Vous mettez ces actifs en dépôt à la banque et vous pouvez emprunter à zéro pour acheter d'autres actifs. Et donc, le prix de ces actifs monte. Mais la quantité d'actifs n'augmente pas. le nombre d'appartements à Paris n'augmente pas. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les pauvres, comme plus personne n'investit, la productivité du travail baisse, puisqu'il n'y a plus d'investissements qui ont lieu dans le système productif, puisque tous vos polytechniciens, à la place de faire des usines, ils font des calculs à la noix pour essayer de gagner un huitième par-ci, un huitième par-là. La productivité n'augmente plus, et le niveau de vie des gens baisse, des pauvres, qui n'ont à vendre que leur travail. Et ce qu'il y a d'abominable dans le système actuel, c'est donc les taux d'intérêt à zéro, ça enrichit les riches de façon invraisemblable, ça appauvrit les pauvres de façon invraisemblable, et tout le monde m'explique que c'est social. Que des taux d'intérêt bas, c'est social. Et je dis, mais vous dites n'importe quoi. Ce qui est social, c'est que l'épargne des pauvres soit rémunérée convenablement pour qu'ils puissent sortir de leur pauvreté. c'est pas de les coller à zéro. Donc quelque part, ce que je veux dire, c'est que derrière cette espèce de machine infernale que sont ces marchés dans lesquels vous avez travaillé, vous avez une erreur de pensée dont je ne pense pas qu'elle soit innocente. Je veux dire par là, cette politique est faite, je vais être très brutal, au bénéfice de Goldman Sachs. Parce que c'est eux qui gagnent. C'est eux qui gagnent toujours. Mais de 1980 à 2000, quand les taux d'intérêt réels étaient très élevés avec Volcker et puis ensuite un peu avec Greenspan, Goldman Sachs ne gagnait pas un rond. Ils ne gagnaient pas un rond, ils étaient quasiment en faillite. Et c'est... Je vais vous raconter une petite anecdote.
Laisse parler les gens, quand même.
Bien sûr, c'est ensuite, parce que ce qu'il dit m'intéresse beaucoup. Mais c'est qu'un jour, j'ai été reçu à un petit déjeuner par le président de la Réserve fédérale de Kansas City, qui était voting member à la Fed, ça vous dit quelque chose, c'est-à-dire qu'il votait. Il a voté 8 fois de suite contre Bernanke, il a le record d'avoir voté contre son chairman. Et il m'a dit, à la fin de la discussion, il m'a dit, Charles, ce que vous dites est très intéressant, mais vous ne comprenez pas qu'à la fin des années Clinton, il y a une classe criminelle qui a pris le pouvoir aux États-Unis et qu'elle gère la Banque centrale américaine à son profit. Et c'était ses banques d'affaires. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas d'une nature complotiste, mais quand vous me dites que c'est malsain, ça l'est peut-être encore plus que vous ne le pensez.
Pour moi, il y a deux leviers, justement, pour ce système-là. C'est la création monétaire et les taux. J'ai l'impression que ce système-là, qui est ce que j'appelle le système de monnaie-dette, et la création monétaire ne sert plus que à permettre justement la spéculation. C'est-à-dire qu'on est passé d'un capitalisme industriel, on va dire de Bretton Woods jusqu'aux années 70, 75. Sur la période Bretton Woods, on est passé justement de ce capitalisme industriel à un capitalisme spéculatif. Et donc voilà, la création monétaire ne sert que justement à maintenir ce système dette. Et ce système dette, quel est justement son pendant? Parce que dans la monnaie, elle est toujours miroir. C'est-à-dire que c'est pas comme l'or où il y en a qui en ont et d'autres qui en ont pas. Ici, il y en a qui en ont et d'autres qui ont la dette en face. Et donc, il a un complice et ce complice, c'est l'état dépensier. C'est-à-dire que c'est pas un état qui investit dans l'économie, c'est un État qui dépense juste pour ses dépenses, sans vision, sans avenir. Et c'est là où ça me dérange, en fait. C'est que je fais une différence. Moi, c'est pour ça que je n'aime pas parler trop de capitalisme, j'ai envie de parler d'investissement et de capital. Et je fais une distinction entre le capital et l'investissement avec la dette et l'usure. Alors, quand je dis usure, c'est-à-dire... c'est au sens ancien, c'est tout ce qui est vol du temps. C'est pas forcément les taux d'intérêt, c'est ce qui est vol du temps, c'est-à-dire le vol de la sueur de l'autre, sans avoir été utile dans l'économie réelle. C'est-à-dire que si il y en a un qui arrive, qui est capable, qui est cul et chemise avec son banquier, qui est capable de lever 50 milliards, comme on va dire Draghi. Il fait des LBO dans tous les sens et il vire des gens, etc. Mais qu'à la fin, il arrive à tirer une richesse de 8 milliards. Moi, ça me pose un petit peu un problème. C'est que je me dis que ce gars a eu un accès à 50 milliards de dettes. Et au final, est-ce qu'il a été utile ou pas pour l'économie?
Je vous arrête là. Il ne l'a pas été. Mais s'il avait dû payer des vrais taux d'intérêt de marché, il n'aurait jamais pu emprunter ses 50 milliards. Il aurait sauté bien avant. Là, il emprunte 50 milliards. Mettons à 2% auprès du Crédit Lyonnais, et pour acheter des actifs qui vont lui rapporter du 4. S'il avait dû emprunter à 4,5, il n'aurait jamais pu faire ses leviers. Donc ce que je dis, c'est le levier, est créé par des taux d'intérêt trop bas qui sont mis là pour permettre à ces brigands de s'enrichir. C'est pas un hasard, hein. C'est pas un hasard, c'est qu'ils sont mis là pour permettre ces opérations-là. Donc le vrai problème que j'ai avec ça, c'est que le gardien de la monnaie est vendu corps et âme, parce que c'est lui qui détermine les taux courts. Et c'est pour ça qu'un homme comme Milton Friedman, avec qui j'ai eu de longues relations, qui était très sympa, disait qu'il fallait fermer toutes les banques centrales et le remplacer par un ordinateur qui augmentait la masse monétaire de 3% par an et qu'il soit scellé, que personne ne puisse jamais le toucher. C'est-à-dire qu'il avait inventé le cryptocurrencies avant que tout le monde en parle, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la monnaie est beaucoup trop sérieuse pour être laissée aux banquiers centraux, parce que les banquiers centraux sont corrompus aujourd'hui, et de façon extraordinaire, soit par des projets politiques, soit par des projets économiques, soit par des projets financiers. C'est pas par hasard que Draghi, l'ancien président de la BCE, se retrouvait chez Goldman.
Ancien de chez Goldman,
se retrouvait chez Goldman à la fin, etc. Donc, il me semble que là, il y a un vrai problème, c'est celui du coût du temps. Vous avez parlé du temps, c'est une notion extraordinairement importante. Et le coût du temps, aujourd'hui, tout l'effort, c'est de réduire le temps à zéro. Autrefois, les taux d'intérêt, ça vous permettait de faire entrer le temps dans le calcul économique. Et aujourd'hui, vous ne pouvez plus, puisque les taux d'intérêt sont à zéro. Donc, on est dans un monde curieux où on n'a plus de prix pour le temps.
Intéressant, oui. Avant, on accélérait le temps. Aujourd'hui, on l'anéantit, en gros.
On l'anéantit.
Et justement, l'idée de Milton Friedman est très intéressante. C'est-à-dire que si nous, on arrive souverainement à décider d'une monnaie démocratique qui augmente, par exemple, de 3%, toute l'idée, c'est de dire ce dividende social, moi je l'appelle le dividende social, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on l'introduit dans l'économie? Est-ce qu'on l'introduit via le budget de l'État pour un peu libérer les pauvres PME qui payent des impôts et des taxes ou les classes moyennes? Ce qui permet d'alléger justement le budget de l'État, qui permet d'alléger l'imposition et qui permet justement de subventionner directement l'État. Ou est-ce que ces 3%-là, on les distribue, ce qu'ils appellent ça l'hélicoptère monnaie, c'est-à-dire à tous les gens? Et si on fait ça, en fait, on va sortir petit à petit du système monnaie-dette. Parce que s'il y a création monétaire, ex nihilo, avec subvention de l'État, en fait, on va bouger d'un système qui est 100% dette, comme il l'est aujourd'hui, un système plus équilibré où on a de la monnaie, ce que j'appelle libre de dette, c'est-à-dire qui ne meurt jamais, et de la monnaie dette qui est de la monnaie crédit, ce qu'on a aujourd'hui. Et ça, je pense, ça va permettre un peu à tous les dirigeants politiques qui nous gouvernent d'être un peu moins soumis au marché. Parce qu'en fait, ils sont soumis au marché, d'une certaine manière.
Qui est soumis à qui ?
Je ne sais pas qui est soumis à qui, mais en tout cas, je sais qui gagne. C'est rarement les gens qui travaillent. C'est rarement les gens qui travaillent. Alors, on va se lancer dans quelques considérations difficiles. Hein. Et je tiens à prévenir les gens que ça va peut-être devenir un peu difficile. Mais la façon dont le système fonctionnait autrefois, c'est que vous aviez un gars, vous, moi, qui voulait lancer une entreprise, qui allait voir une banque, qui demandait un prêt à la banque. Si la banque l'accordait, elle ouvrait un compte, on mettait l'argent, et ce crédit, en quelque sorte, devenait de la monnaie.
C'était la création monétaire par les banques.
Par les banques. C'était
commercial.
Commercial. Et c'est comme ça que ça se passait. Et c'était très bien, parce que toute création monétaire était dans le fond, à l'origine, avait été créée par quelqu'un qui allait créer un outil de production, qui allait se payer lui-même, si les calculs qu'il avait fait auprès de la banque étaient les bons. Ça ratait, mais les banques faisaient des péréquations pour ça, ça marchait très bien. Donc, à l'origine de toute monnaie, il y avait une demande de crédit qui allait accroître l'offre de produits. C'était comme ça que ça fonctionnait. Aujourd'hui, on a complètement renversé la proposition. Aujourd'hui, la monnaie est créée par la banque centrale pour acheter des dettes des États. Et ces dettes des États vont être ensuite distribuées par des comités théodules aux gens en dessous. Et on ne crée plus de la monnaie, on crée en quelque sorte des bons de consommation, quoi. Puisque le temps n'existe plus. On vous donne un ticket de Monopoly en disant ça vous donnera le droit de louer une voiture ou d'acheter un restaurant. Donc on est en train de complètement changer la nature de la monnaie. À la place d'être créée par une demande originelle pour accroître la capacité de production, aujourd'hui, elle est créée par l'État pour maintenir une consommation dans des produits, dans le fond, dont les gens ont besoin ou pas. Il n'y a plus aucune démocratie dans ce système. Donc on est en train de renverser complètement la base financière, la base du capitalisme, qui est que ben, celui qui prenait des risques était remboursé, celui qui n'en prenait pas, eh ben, il perdait. Quoi. C'est ce que je dis toujours, c'est le capitalisme sans faillite, c'est un peu comme l'Église catholique sans enfer. Quoi. Ça marche moyen. Et donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que vous pensez de cette analyse? Parce qu'elle me trouble beaucoup, c'est que la nature de la monnaie est en train de changer.
Pour moi, je vois trois phases à peu près, et vous en avez décrit deux, et j'en vois une troisième. Alors oui. Déjà, ce qu'on appelle le capitalisme de papa, c'est justement le capitalisme que vous décrivez, capitalisme industriel et de la capitalisme de l'activité, c'est-à-dire le plombier qui a une bonne idée, il veut acheter sa fourgonnette, ses outils, etc., et qui s'y met, et qui s'y lance. Ce crédit-là n'intéresse plus trop les banques. On va dire à peu près à la fin des années 90, début des années 2000, elles ont été vers la facilité. Vers quoi? Vers le crédit immobilier. Et quand on voit, par exemple, l'encours des crédits entre l'an 2000 et 2010, en 10 ans, il a été multiplié par 4. On est passé de 250 milliards à 1000 milliards. Pourquoi? Parce que c'est tellement facile, justement, de participer à cette spéculation immobilière, parce que c'est une sorte de Ponzi scheme, c'est-à-dire que le premier qui rentre, il est gagnant, et ceux qui rentrent à la fin sont les perdants.
Ben, on sait qui c'est les perdants, c'est nos enfants.
Oui, nos enfants.
On le sait très bien qui c'est.
Moi, je le vois à Londres, hein, les perdants. Moi, j'ai des gens qui ont fait Cambridge, qui travaillent dans des banques avec des salaires énormes et qui habitent à l'est de Londres dans des endroits mal famés. Parce que pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter ou de louer au centre de Londres. C'est quasiment impossible.
Ouais.
Et ce sont eux les perdants. Et donc, justement, les banques sont mis dans ce crédit immobilier. Pourquoi? Parce qu'ils ont du collatéral qui est assez sûr, qui est la pierre. Et justement, c'est là où on revient à la notion de temps. C'est qu'il y a deux phénomènes qui vont jouer. C'est que l'inflation, elle ne rentre pas trop dans l'immobilier. L'immobilier est un actif bâtard qui est entre la consommation et l'actif pur financier. Oui. Et donc, il ne compte que pour 6% dans l'indice d'inflation.
Ça, c'est du pipeau, mais ce n'est pas grave.
Oui, mais qui peut croire qu'avec 3000 euros ou 2000 euros ou 3000 euros à Paris, on peut se loger avec 180 euros? C'est juste impossible.
Oui, oui.
Et donc ça, ils sont mis là-dedans, mais ça pose un problème. Et l'autre chose, moi, je dis toujours aux gens, ne te perds pas. J'ai un oncle, un cousin qui s'est endetté dans les années 90 à 12% et qui a remboursé son appart en 14 ans. Toi, tu t'endettes à 0%, mais il va falloir 27 ans pour rembourser ton 40 mètres carrés dans le 20e à Paris. Je pense pas que tu sois gagnant en change. Non. Donc, quand on te dit, ah, il faut acheter parce que les taux sont bas, bah, on sait pas où ce qu'on va là. C'est ce qui est important à la fin, c'est la notion de temps et de temps de vie. Est-ce que j'ai envie de dépenser 27 ans de ma vie, de sacrifier 27 ans pour justement m'acheter un 40 mètres carrés dans le 20e? Je suis pas sûr que c'est l'idéal de vie qu'on veut donner aux gens.
Non. Et en plus, comme on n'en bâtit pas tant que ça, des 40 mètres carrés dans le 20e, qu'on le veuille ou non, la hausse du prix, c'est pas, il n'y a pas une hausse du nombre d'appartements. C'est les mêmes appartements qui se vendent de plus en plus cher. Donc, je donne toujours l'exemple d'un appartement qui était à côté de de l'Assemblée nationale, là, que je connaissais pour des raisons familiales. Il y a quatre générations, il fallait 5 ans d'un salaire de haut fonctionnaire pour l'acheter. Puis on est passé à 12 ans, puis on essaie à 20 ans. Maintenant, on doit être à 60 ans pour acheter le même appartement. Il n'a pas changé, c'est simplement. Donc, cette espèce de hausse extraordinaire est ce qu'on appelle en droit un enrichissement sans cause.
C'est tout à fait ça. Et ce qui est marrant, c'est que les économistes ont du mal à voir justement un concept qui a été inventé il y a quasiment maintenant 300 ans, qui est l'effet Cantillon. C'est
bien sûr. Bien sûr, plus on est près de la banque centrale, plus on s'enrichit.
Ouais, parce que plus on est proche, moi, ce que je dis, plus on est proche de l'œil du cyclone, plus on s'enrichit. Moi, j'avais un prof, j'étais ingénieur télécom, il m'a dit, je lui dis, mais monsieur, comment je peux devenir riche? Il m'a dit, bah, il faut que tu ailles à côté du robinet. Et j'ai dit, c'est quoi le robinet? Il m'a dit, il y a deux robinets, soit tu vas proche du système bancaire ou soit proche du système politique. Et donc, moi, pour des raisons personnelles, j'ai choisi la banque, parce que je me suis dit, si tu veux aller là-bas, mais il y a l'effet Cantillon dans tout. C'est-à-dire qu'avant, le robinet, c'était le crédit industriel, ben, ceux qui faisaient de l'industrie, ceux qui faisaient de l'activité, étaient les gagnants. C'est ce qui s'est passé,
bien sûr,
dans les années 80. Après, c'est ceux qui ont spéculé sur l'immobilier. Et aujourd'hui, c'est ceux qui ont accès à la cocaïne gratuite, cocaïne monétaire des banques centrales, qui peuvent emprunter à 0% pour s'acheter des parts d'actions, d'immobilier, qui leur apportent du 3% de dividendes ou du 2-3% de loyer. Et donc, on voit que tous les actifs augmentent. Mais comme vous dites, ils augmentent en prix, mais la valeur est la même. J'ai ma maman qui m'a dit « Ah, t'as vu le terrain que tu as acheté, que je t'ai fait acheter, j'ai de la chance, hein. Tu as de la chance qu'il a vachement augmenté. » J'ai dit « Non, il fait toujours 1000 mètres carrés, il n'a pas augmenté.
» Il n'a pas augmenté du tout, ça c'est…
C'est l'histoire du caviar que tu racontais sur…
C'est l'histoire du caviar que je raconte toujours à mes jeunes quand ils veulent bien écouter les propos du gâteau de service, mais c'est que moi, quand j'adore le caviar, hein. Ça me vient de ma mère qui adorait le caviar aussi, et je me dis toujours quand je serai riche, je pourrai acheter autant de caviar que je veux. Alors, je gagne plein d'argent, je vais voir le prix du caviar, et il est beaucoup plus monté que ma richesse, quoi. Donc, ma capacité à acheter le caviar est la même qu'il y a 50 ans, quoi. Ça s'est pas amélioré. C'est ce qu'on appelle un bien inélastique, très élastique par rapport au revenu, quoi. Donc, tous ces trucs-là sont montés. C'est pour ça que j'avais écrit un article il y a une trentaine d'années, au début de cette période, qui s'appelait « Ça n'a jamais été aussi cher d'être riche. It has never been so expensive to be rich. » C'est parce que l'inflation pour les produits que les riches achètent a été phénoménale.
C'est ce que je racontais dans un thread. Je disais, par exemple, quand on décide pour nous du panier de l'inflation, par exemple, l'immobilier va compter que pour 6%, l'ordi va compter pour beaucoup plus, etc. En fait, c'est une moyenne, en gros, qu'on fait pour tous les Français. Mais quand on regarde le prix des yachts, le prix des sacs Hermès, etc., ils ont triplé, quadruplé le prix de la montre Rolex. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est l'effet Cantillon. Il suffit de regarder ce qui a augmenté pour voir qui profite de la création monétaire. Et je pense que les économistes, ils ont du mal à voir ce que disait Keynes. Il disait, par exemple, lui, il disait que la difficulté n'était pas justement de se mettre à jour sur les idées nouvelles, c'était plutôt d'échapper aux idées anciennes. Et l'inflation d'aujourd'hui, c'est une inflation qui est par les marchés financiers, par les actifs, et qui se répand ensuite. On n'est pas au temps de Weimar où c'était une inflation justement par le peuple, par les prix à la consommation. Et je trouve ce qui est paradoxal dans cette époque, c'est que les économistes qui se disent le plus de gauche, ce sont ceux justement qui poussent à la dépense publique et qui poussent à ce système.
Et au taux d'intérêt bas.
Le système dette. Oui, au taux d'intérêt bas.
Au taux d'intérêt bas, c'est extraordinaire. Je le vois sans arrêt, mais quand vous regardez ce qui se passe à l'heure actuelle, moi j'ai fait tout à fait récemment des travaux là, pour nos clients. J'ai été regarder l'inflation sur les trois produits qui comptent. Hein. Quand vous êtes fauché, moi quand j'étais étudiant aux États-Unis, 100% de mon budget allait dans le loyer, dans la bouffe et dans le transport. C'était les trois trucs où 100% de mon budget allait à ça. Ben, si vous faites un indice de ces trois prix-là, vous avez l'indice, dans le fond, qui tue les petites gens. Et il est en train de monter très fort. L'immobilier monte, les matières premières agricoles montent, et l'énergie est beaucoup montée aussi. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat des petites gens, et c'est pour ça qu'on a eu les gilets jaunes, parce que les petits jaunes, ils se sont retrouvés, il leur restait 80 euros par mois une fois qu'ils avaient payé tout ce qu'ils devaient payer pour rigoler, enfin les 80% pour aller au match de foot ou j'en sais rien, les 80 euros. Et puis d'un seul coup maintenant, ils sont passés de 0 à 2,80, à moins 80 à cause de la hausse de ces trois prix-là. Et chaque fois que dans l'histoire que ces trois prix-là ont beaucoup monté, ça a déclenché des problèmes très graves dans l'économie. Parce que la consommation marginale de ces gens-là baisse de 100%. Ça baisse pas de 2 ou 3% comme la consommation du riche quand il prend un pet, c'est que eux, ils sont obligés de couper massivement partout ailleurs. Et donc, on n'a pas l'inflation qu'on avait dans les années Weimar, mais on a une inflation aujourd'hui extraordinairement forte qui touche les petites gens. Qui touche là-haut.
On le voit avec le salaire des fonctionnaires, par exemple, quand on regarde l'augmentation des salaires dans le privé, comparé à l'inflation et aussi au salaire, au point d'indice des fonctionnaires, on voit aussi que les fonctionnaires sont à la traîne. Donc, je pense que là aussi, il y a une poudrière. Alors, j'arrive quasiment à la même conclusion que vous, mais alors avec un autre point de vue, moi, je me dis, face à une montagne de dettes, parce que c'est le cas, on est face à une montagne de dettes privées, publiques.
Et on continue à creuser. Hein.
Voilà, il y a ce qu'on appelle la petite étincelle. Et l'étincelle, c'est les taux d'intérêt. Pour l'instant, les taux d'intérêt sont très bas. Donc, on n'arrive pas à exposer cette poudrière qui est celle de la dette. Et le risque qu'il y a là, c'est justement qu'on ait une augmentation de l'inflation, qu'elle se répande des actifs immobiliers, parce que les gens, OK, à un moment, vont être contents que leur immobilier monte, que leurs actions montent, mais petit à petit, ils vont introduire cet argent petit à petit dans l'économie réelle. Et face à une création monétaire énorme qui ne fait pas face à une croissance qui lui fait face, c'est-à-dire qu'on crée de la monnaie, ce qu'il y a de richesse qui soit créée en face, à un moment, on va avoir de l'inflation et il va avoir des perdants. Et les perdants, c'est ceux justement qui ne profitent pas de cette hausse des actifs. Et donc, face à l'inflation, si on remonte pas les taux, si on remonte les taux d'intérêt, c'est la montagne de dette qui explose. Et ça, je pense que jamais de la vie, ils le feront. S'ils ne montent pas les taux d'intérêt, on va avoir de l'inflation. Et justement, ce qu'on risque d'avoir, c'est le chaos social. C'est-à-dire que les gens, les petites gens, que ce soit un gilet jaune puissance 10. Les gens sont plus prêts socialement qu'eux n'arrivent pas à manger, à se loger, à être transportés, et qu'en face, on entend qu'un tel nage dans les milliards. C'est juste c'est de la frustration sociale. On vit une exacerbation des inégalités de richesse qui, je pense, jamais vue depuis les années 20.
Oui. Alors la façon dont j'essaie, on discute tranquillement là, c'est pas la façon dont j'essaie de regarder ça, moi, c'est que je me dis dans le fond ce que disait Milton Friedman, c'était que l'inflation était partout et toujours un phénomène monétaire, mais que ça ne tombait pas toujours au même endroit. C'est-à-dire que dans les années 70, l'inflation qu'on avait créée avec la déréglementation de Nixon qui sort de l'or, etc., ça s'était porté sur les prix de détail. Bon, tout le monde l'a vu, on a eu une inflation, tout le monde s'en souvient. Enfin, ceux qui étaient là s'en souviennent. Quand Bernanke a recommencé la bêtise en 2004-2005, ça s'est porté sur le prix des actifs. Et aujourd'hui, à mon avis, la prochaine grande vague d'inflation, ce sera sur les monnaies. Parce que vous avez deux sortes de monnaies. Vous avez les monnaies des pays qui ont fait n'importe quoi avec le Covid. On les connaît, hein, c'est les nôtres. Et puis, il y a les pays qui n'ont pas fait de bêtises avec le Covid, c'est tous les pays d'Asie. Donc, si la quantité de dollars double et la quantité de yuan ne double pas, il me semble qu'un de ces quatre, le dollar va se ramasser la gamelle du siècle contre le yuan. Donc, pour moi, la prochaine grande hausse de l'inflation, c'est l'écroulement de nos monnaies à cause de la dette qu'on ne peut plus payer.
On verra dans le contrôle d'échange.
Là, je vous suis à 100%.
Il me semble que c'est la seule porte de sortie, c'est que dans le fond, les Européens puissent plus aller en Thaïlande et que tous les Thaïs viennent passer leurs vacances à Venise, quoi. C'est qu'on devienne des pays de bronze-cul, quoi.
Bah, je pense que le dollar et l'euro, de toute façon, toutes ces monnaies-là, elles vivent sur un acquis qui est un acquis du passé, c'est-à-dire c'est justement le privilège exorbitant du dollar. Et je pense que le jour où les gens... Quand je dis les gens, c'est-à-dire les autres économies, que ce soit économie chinoise ou indienne ou quoi que ce soit, commencent à se dire, mais comment ça se fait qu'on est en train de financer ces gens-là, quoi. Le jour où il n'y aura plus de confiance dans le dollar et qu'on bouge à, justement, peut-être c'est une bonne transition, au crypto-yuan, etc., et que la Russie, l'Iran, la Turquie décident, tous ces pays périphériques décident de se dire, on ne veut plus traiter en dollars, on ne veut plus être... sous la menace diplomatique des États-Unis, on va traiter avec nos propres monnaies. Je pense que ce jour-là, il va y avoir une petite guerre diplomatique, voire plus, quoi.
Mais ça a commencé, c'est ce qu'essaye de faire la Chine depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que la Chine est en train d'essayer de dédollariser l'Asie, donc et l'Afrique, ils y travaillent autant qu'ils peuvent. Mais ça veut dire, pour revenir à votre métier qui est trader, hein, enfin qu'il était, je ne sais pas ce que vous faites maintenant, mais... Dans le fond, on peut faire du trading que sur deux objets. Un contrat, une obligation, ou les dérivés de l'obligation, mais qui était une forme de contrat sur un contrat, ou une part de propriété, equity. Donc, il n'y a que deux choses sur lesquelles on peut faire du trading essentiellement, c'est de la propriété ou du crédit. Il n'y a rien d'autre. Si vous trouvez une troisième chose, à mon avis, vous êtes riche, mais enfin, ce n'est pas grave.
Il y a les matières premières.
Oui, mais les matières premières, vous prenez un contrat pour l'achat des matières premières. Ouais. C'est avec une monnaie, etc. Donc, vous vous retrouvez dans le monde du contrat. Bon, si vous acceptez ces analyses, qui, en étant raisonnable, achètera un contrat émis par les États américains ou européens? Ça vaut rien. Une obligation à 10 ans, de l'État français. Vous êtes certain de perdre du pognon. 60 ans d'expérience, c'est la première fois qu'on me propose un produit où je suis certain de perdre du fric. J'ai souvent perdu du fric, mais on m'a jamais proposé au départ d'être certain de perdre du fric. Enfin, je veux dire, c'est quand même invraisemblable. Donc, je me dis, avoir des contrats, tout ce qui touche au marché obligataire, en Europe ou aux États-Unis aujourd'hui, faut être fou. Je veux bien avoir des actions Air Liquide, mais avoir des obligations de l'État français, faut être fou.
C'est un peu l'idée que vous avez dit au départ, c'est que, en gros, on est censé vivre dans un monde économique libéral, mais il ne l'est plus.
Et il n'est plus du tout, il n'y a plus rien de libéral là-dedans.
Oui, c'est du communisme pour les riches, c'est-à-dire que...
Voilà, c'est du communisme pour les riches, la formule est très bonne.
Voilà, les banques centrales, justement, essayent, avant, elles avaient un contrôle, alors je ne sais pas si les gens savent ce que c'est la courbe des taux, mais en gros, on peut emprunter à aujourd'hui, à dans un an, à dans 10 ans, etc. Avant, les banques centrales n'avaient le contrôle que sur un tout petit point, c'est le taux des Richter. Et aujourd'hui, elle veut contrôler complètement toute la courbe, c'est-à-dire que ça aille jusqu'aux 30 ans ou au zéro, elle intervient sur les marchés financiers, elle injecte des liquidités, elle achète des dettes d'État, elle achète des dettes de multinationales, et en fait, elle le fait sans que nous, démocratiquement, lui ont donné le droit. C'est juste, elle s'est donné ce droit-là d'agir avec le consentement des Allemands et de tout le monde. Et le problème, c'est que en faisant ça, en fait, il n'y a plus de rendement. Donc, qu'est-ce que font les gens quand il n'y a plus de rendement sur les obligations d'État, etc., ils vont chercher ailleurs et ils vont spéculer, ils vont investir dans des junk bonds, ils vont investir dans les dérivés. Et qu'est-ce que ça crée, ça? Ça crée un monde de plus en plus incertain.
Et de plus en plus instable.
Instable. Et c'est pour ça que je dis tout le temps la phrase, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et en gros, on est en train de transformer un risque par un autre risque.
Oui.
C'est-à-dire que c'est le risque justement de chaos et que ça peut être même du chaos des marchés financiers ou un chaos social.
Mais vous savez, c'est ce que dit... Nous, on travaille beaucoup sur la notion d'antifragilité de Nassim Taleb, vous savez, qui est un type tout à fait remarquable. Et ce qui se passe dans les queues de distribution, quand d'un seul coup, les gens ne le savent pas, mais vous le savez certainement, mais dans les marchés financiers, il n'y a pas un État, il y en a deux. Quand vous êtes dans le cœur de la distribution, là, de chaque côté, un écart-type, les théories du portefeuille marchent bien. Mais quand vous allez dans les queues, ça marche plus du tout. Donc vous avez, les marchés financiers passent de temps en temps comme de passer de l'eau à la glace. C'est-à-dire, c'est plus du tout les mêmes lois qui régissent. Et quand vous rentrez dans les queues de distribution, à ce moment-là, ça devient extrêmement difficile à contrôler pour une banque centrale. Mais comme les banques centrales ont réassuré tous les risques du temps et tous les risques de crédit, à un moment, les risques qu'elles ont réassurés vont devenir trop importants pour qu'elles puissent couvrir le risque des queues de distribution. Et à ce moment-là, c'est ce que vous dites, ça va pas être beau à voir, quoi. Ça va être assez vilain, même.
Mais ça me fait plaisir ce que vous dites, parce que c'est comme ça, moi, que j'ai fait énormément d'argent dans le trading. C'est quand il se passe rien, que c'est très peu volatile, ben, je me range avec tout le monde et je fais le mouton. Mais dès que je sens qu'en 2008, en 2011...
Quand on passe dans les queues de distribution, c'est là où tout...
C'est là où on se régale. Mais pourquoi? Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à s'imaginer le pire. Ils se projettent toujours dans un... Ils se disent, bah, moi, pendant 90-95% du temps, on a été dans ce monde-là. Ils n'arrivent pas à s'adapter et se dire, voilà, il y a un changement de régime et que ça peut péter et que quand ça pète, on ne contrôle plus rien.
C'est le Black Swan.
Mais c'est exactement ça. Nous, on fait des tas de travaux là-dessus et on arrive à trouver des relations avec la physique fondamentale qui sont assez marrantes. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que moi, quand je faisais mes études à Toulouse il y a bien longtemps, on m'avait expliqué que les taux d'intérêt, ça servait à me compenser contre l'incertitude du futur. Bon, c'était une bonne explication, bon, très bien. Mais si vous mettez des taux d'intérêt négatifs, ça veut dire que philosophiquement, le futur est plus certain que le présent. Ce qui est une imbécilité totale, le futur ne peut pas être plus certain. Donc ça fait 10 ans qu'on est géré en fonction d'une imbécilité totale et qu'on attend des résultats positifs. Mais c'est vrai, la définition de la folie d'Einstein, c'est qu'on fait la même chose en attendant un résultat différent à chaque fois. Mais c'est pas possible, quoi. On est dans un monde, mais j'ai l'impression, entre vous et moi, là, qu'on est en train de rentrer dans un monde qui devient fou.
Mais il est déjà, ouais. Ce que vous avez dit sur les taux d'intérêt négatifs, j'ai un autre angle d'attaque.
Oui.
quand je demande à quelqu'un bah, pourquoi le pauvre va payer, je sais pas, sur un crédit à la conso à 6% et le riche, il va payer 2%. D'ailleurs, je me demande s'il prend des crédits à la conso, je suis pas sûr, vu qu'il est riche, il a de l'argent. Ouais. Bah, on me dit à chaque fois, bah, l'autre, si on prend la loi des grands nombres, on en prend plein de pauvres, bah, peut-être qu'il y en a 4% qui vont faire défaut, donc on prête à 6% pour avoir 2% de marge. Et je lui dis, pour le riche, bah, voilà, il y en a quasiment pas et on prend 2% de marge. Voilà. Et je lui dis, ben, donc c'est une probabilité. Oui, oui, c'est une probabilité. Et quand c'est négatif, et là, ils se perdent tous, parce que des probas négatives n'existent pas. Voilà. Donc, des taux négatifs n'ont aucun sens.
Aucun sens.
Quand on le regarde de plusieurs points de vue, que ce soit avec la rémunération du risque.
Et faites un calcul de cash flow escompté avec un truc négatif.
Ça. Et justement, aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous avez vu, il y a une news. Il se passe aux États-Unis suite à la crise du repo. Là, on est en train de vivre quasiment la crise inverse. Ça s'appelle le reverse repo.
Oui, j'ai vu ça. Oui.
Les gens sont en train de placer 500 milliards à la Fed pour dire on veut pas de vos dollars, on en a trop. Vous avez tellement flodé le monde, flodé alors. Vous avez tellement inondé le monde de dollars qu'on n'en veut plus. On vous les donne et donnez-nous à la place des titres. Est-ce que quelqu'un m'a dit mais je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est trop technique. Je lui dis écoute. Imagine-toi dans le passé, quand on allait voir un banquier, pour qu'il nous prête de l'argent, il fallait qu'on gage notre montre. Maintenant, c'est le contraire. C'est le banquier qui nous demande de ramener l'argent chez lui et il nous donne sa montre. Donc, je ne sais pas. Moi, c'est un monde que je n'ai jamais connu. Je pense que historiquement, qu'on n'a jamais connu et que les économistes modernes, les économistes de salon, là, ceux des universités, je pense qu'ils ne comprennent pas.
Mais ils pensent tous, je le sais parce que ça fait des années que je me bats contre eux, que le monde de l'économie est symétrique. Que moins 1, c'est la même chose que plus 1. Mais c'est complètement idiot, quoi. Le monde de l'économie n'est pas symétrique. Il ne peut pas être symétrique. Il est asymétrique. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a deux nations qui sont devenues folles au XXe siècle. C'était l'Allemagne et la Russie. Et j'ai l'impression que notre monde occidental est en train de devenir raide cinglé. Dans tout un tas de domaines, sociétal, économique, et on est en train de m'expliquer que, dans le fond, quand on a été chassé du paradis terrestre, Dieu nous a dit, ben, écoute, tu bouffes ton blé en herbe, comme ça l'année prochaine, t'en auras plus. Ben, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, quoi, dans la réalité. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train d'entrer dans une période un peu bizarre. Mais je suis content que vous en soyez sortis, d'ailleurs, parce que ça peut rendre fou, hein.
Qu'est-ce que vous faites maintenant, si c'est pas indiscret?
Alors, ce que je fais maintenant, bah, déjà, je réfléchis un peu à toutes ces questions-là. Ça me prend un peu de temps, mais j'ai une petite start-up, une petite société avec une petite solution web informatique pour des mini-sociétés, des micro-sociétés, et ça me rend très heureux. Donc, voilà, je gère des équipes un peu partout et voilà, ça me stimule le cerveau.
Mais qui font quoi sur le web? Des sites?
C'est très, très simple. C'est... En gros, on aide les gens à gérer leur contrat, en fait. Par juste du clic. Leur contrat, leur paiement, leur facture, leur sous-traitance. On essaye de faire en sorte que, moi, je m'appuie un peu des systèmes que j'avais en banque et j'essaie d'adapter un peu l'idée à des gens normaux, c'est-à-dire tout ce qui est front office, middle office, back office. C'est juste essayer de faire en sorte qu'ils soient très, très professionnels face à leurs clients. En n'ayant à faire que des clics. Et donc, ça les aide énormément. J'ai l'impression qu'il y a une rupture du contrat, en fait. J'ai l'impression que la vie actuelle, tout à l'heure, on parlait de contrat, quand j'ai bien, bien réfléchi, je me suis dit, mais comment je peux faire en sorte que les gens apprennent à se faire confiance les uns les autres? Et je suis allé voir la monnaie très rapidement. Et après, je suis allé même aller voir plus loin que la monnaie. J'étais voir la philosophie, ce qu'on disait les scolastiques, etc. Et j'ai pensé aussi au contrat. Et quand on regarde saint Thomas d'Aquin, il appelait pas l'économie. Il appelait ça la politique des contrats. Et en fait, si on veut que les gens se fassent confiance, il faut que l'honneur et la parole reviennent. Et moi, ce que j'essaie de faire à ma petite échelle, hein, c'est tout petit, c'est de faire en sorte justement que la confiance et la parole, eh ben, elle soit plus solide grâce justement à ces supports techniques. C'est-à-dire que c'est la technique qui est au service de l'homme et pas l'homme qui est au service de la technique.
Mais écoutez, c'est très bien parce que ce que j'explique toujours aux jeunes qui viennent me demander conseil, parce qu'il y en a, je ne sais pas pourquoi, mais il y en a quelques-uns, et je leur dis toujours, il faut toujours que vous fassiez quelque chose pour rendre service aux gens. Si vous cherchez à gagner de l'argent, vous n'en gagnerez pas, parce que les gens le sentiront. Mais si vous cherchez à rendre service, si vous écoutez ce dont les gens ont besoin, si par hasard vous retrouvez une solution à leurs problèmes, d'abord ils sont très gentils. Moi j'ai toujours dit aux gens, dans la vie il faut avoir soit un patron, soit des clients. Et les clients sont beaucoup moins emmerdants que le patron, il n'y a pas à chiquer. Quoi. C'est... les clients c'est fou ce qu'ils sont gentils d'habitude. C'est assez marrant, mais ils comprennent que vous voulez les aider. Mais je vois vous faites un chemin tout à fait remarquable. Bah, écoutez, j'en suis très content pour vous. Tiens, ça m'a... Quand est-ce que vous venez à Paris ?
J'espère dans peut-être dès que le UK nous laisse venir, parce que là on est ils nous mettent en quarantaine quand on va là-bas. Ouais. Quand on va à Paris, quand on revient, on reste bloqué pendant 10 jours.
Bon, bah, écoutez, quand vous venez à Paris, pensez nous venir voir ici parce que je vous montrerai ce qu'on fait dans tout ce qui est justement intelligence artificielle appliquée au marché financier, antifragilité, tout ça. On fait des tas de trucs très rigolos et ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre opinion.
Avec plaisir. En tout cas, c'est des sujets qui me passionnent.
Oui, oui. Ben, c'est très intéressant parce que la finance, c'est quand même spéculer en bon latin, ça veut dire réfléchir. Hein. Speculare, c'est réfléchir.
Ah non, je ne savais pas ça. Pourtant, je m'intéresse à beaucoup l'étymologie pour comprendre l'origine.
Ben voilà, donc quelque part, c'est que vous réfléchissez sur la nature de la bête, qu'est la finance. Et c'est ça de spéculer.
Après, il y a plusieurs spéculations. Par exemple, je pense que la spéculation la plus noble, si on peut dire, c'est l'arbitrage. C'est-à-dire que moi, c'est un peu comme ça que je voyais mon rôle. C'est, je suis au cœur de la bête. Comment je peux faire en sorte d'arbitrer les gens entre eux sans justement participer
à une spoliation.
Réduire au maximum mon impact.
C'est-à-dire ce que vous essayez de faire, c'est dans le fond, vous parlez comme un économiste, de découvrir le prix le mieux possible. Par l'arbitrage.
Ou les écarts de prix qui seraient incohérents.
Les écarts de prix, c'est ce qui permet au système d'être plus efficient, puisqu'il y a moins de trucs au hasard.
C'est ce qu'on m'a vendu pendant longtemps. Et à la fin, je ne pouvais plus y croire.
Non, mais oui, mais bon,
ça permet d'alléger sa conscience de penser comme ça.
Oui, et puis, alléger sa conscience, c'est difficile. Mais vous avez encore le temps. Ben écoutez, ça a été sympa comme tout.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci infiniment. Et bah, à bientôt sur Twitter.
À bientôt sur
Donc,
Twitter.
Suivez Anis sur Twitter, Anis Lajnev. Vous le trouverez. Le petit logo est rose et orange. Voilà. Non pas qu'il en ait besoin. Il est voilà. Et pour plus d'informations, nous on continue nos petits entretiens.
Nous on continue nos entretiens.